Chers amis auditrices et auditeurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle étude de la Bible dans cette leçon de l'école du sabbat.
Bonjour chers amis auditeurs et bienvenue avec Bernard et moi-même pour étudier cette 10e leçon d'école du sabbat pour le 2e trimestre de l'année 2009, semaine donc du 30 mai au 5 juin. Le verset à mémoriser pour cette semaine est celui de Jean dans le chapitre 15, verset 8.
Oui, mon père, c'est une leçon qui va avoir pour titre « Être disciple ». Et le texte qui nous est proposé au début, c'est « Mon père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez mes disciples ». Jean, chapitre 15 et le verset 8. Et voyons maintenant quelle est la pensée centrale pour cette semaine.
Un disciple apprend durant toute sa vie. Quand le Christ nous appelle, nous devons le suivre là où il nous conduit, malgré les souffrances inévitables et les sacrifices librement consentis. En termes humains, les récompenses semblent maigres. Mais lorsque nous découvrons la vie véritable en Christ, nous réalisons alors combien elle en vaut la peine.
Il est important d'utiliser au mieux nos facultés intellectuelles pour comprendre, autant que possible, ce que Dieu nous a révélé. Il n'est pas indispensable d'avoir une parfaite connaissance des doctrines bibliques pour être sauvé. Dieu nous demande cependant de suivre toutes ses instructions.
Qu'est-ce qu'un disciple ? Voici la définition qu'en donne le Seventh-day Adventist Bible Dictionary. Excusez mon accent. Celui qui, étudiant ou adhérent, suit les enseignements d'un autre, notamment d'un enseignement public. Dans le Nouveau Testament, disciple est la traduction du grec mathétès, en rapport avec mantan, apprendre, d'où le sens d'apprenti, d'élève, d'adhérent. Profitons donc de cette semaine pour examiner de plus près ce que signifie le fait d'être disciple.
Cela pendant cette semaine et le dimanche 31 mai, nous attaquons cette semaine avec comme titre
« Suiveur et décideur ».
Et nous allons voir quels sont les principes maintenant concernant le rôle de dirigeant que nous trouvons dans certains textes et notamment dans Exode chapitre 18 et que vont nous apprendre ces textes sur les décideurs et sur les suiveurs. Donc nous prenons Exode 18, tout d'abord les versets 13 et 14.
Le lendemain, Moïse siégea pour juger le peuple. Et le peuple se tint devant Moïse depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple, et il dit « Que fais-tu là pour ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se présente-t-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir ?» Versets 15 et 16 à présent.
Moïse répondit à son beau-père « C'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelque affaire, on vient devant moi. » Je sers d'arbitre entre les deux parties et je fais connaître les prescriptions de Dieu et ses lois. Nous continuons avec les versets 17 à 19.
Le beau-père de Moïse lui dit « Ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même ainsi que ce peuple qui est avec toi, car la tâche est trop lourde pour toi. Tu ne pourras pas l'exécuter toi seul. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. » Représente le peuple auprès de Dieu et porte toi-même les affaires devant Dieu. Et poursuivons avec les versets 20 et 22.
Explique-leur les prescriptions et les lois, et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et l'œuvre qu'ils doivent faire. Discerne parmi tout le peuple des hommes de valeur, craignant Dieu, des hommes attachés à la vérité et qui haïssent le gain malhonnête. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple eux-mêmes, qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toute affaire importante et qu'ils jugent eux-mêmes les affaires secondaires. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi.
Tous les hommes sont fondamentalement égaux devant Dieu. mais ils n'ont pas tous le même rôle à jouer dans la société. Certains ont un don pour diriger. En effet, nos sociétés, ainsi que tout organisme au sein de celles-ci, ne tarderaient pas à s'effondrer sans dirigeant à leur tête. Même au ciel, il semble exister une répartition des rôles. Il y a par exemple des anges et des archanges. Dieu a choisi des responsables quand il a appelé son peuple à sortir d'Égypte. Les services du sanctuaire ont été conduits par des hommes capables. Pour accomplir son œuvre, Dieu a choisi des juges, des prophètes, des rois.
Mais un dirigeant est inefficace, sans suiveur, prêt à accepter ses directives. En particulier, les responsables ont besoin d'un groupe d'associés proches, disposés à être formés pour pouvoir les assister dans la mise en œuvre de leurs objectifs. Jésus a appelé à lui 12 disciples. Nous trouvons ceci dans Marc chapitre 3, versets 13 à 19. Et voyons quels autres exemples d'enseignants qui se sont entourés de disciples nous trouvons dans les évangiles. Lisons tout d'abord Marc 2 et verset 18.
Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus, « Pourquoi les disciples de Jean et ceux de pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent pas ?»
Il est normal que Jésus se soit entouré d'un groupe de disciples. Il était courant pour les enseignants de s'entourer de fidèles. En revanche, le type d'homme choisi par Jésus est remarquable. Jésus a vu en eux un potentiel que la plupart d'entre nous n'auraient pas pu discerner. La célérité avec laquelle ils ont quitté leurs activités quotidiennes pour suivre ce charpentier venu de Nazareth est également remarquable. Apparemment, ils ont vu en Jésus quelqu'un d'extraordinaire que même ses proches n'avaient pas perçu comme tel.
Cependant, même si les 12 représentent un groupe particulier, d'autres personnes mentionnées dans les évangiles étaient aussi des disciples. Dans certaines cultures, il existe une certaine hostilité envers les responsables, alors que dans d'autres cultures, les gens suivent aveuglément leurs dirigeants. Quelle est donc la tendance de notre société actuelle et comment y trouver l'équilibre ? Voici le sujet de méditation sur lequel il nous est proposé de réfléchir aujourd'hui.
Nous reprenons maintenant cette étude avec le lundi 1er juin 2009. Et là, nous allons voir...
La marque du disciple, obéissance et loyauté.
Jésus ne s'est pas contenté de partager des connaissances avec ses disciples. C'était pourtant un incroyable privilège de l'entendre expliquer couramment les Écritures et répondre aux nombreuses questions des responsables spirituels de l'époque. L'enseignement de Jésus n'a pas échappé non plus aux autres hommes.
Jésus enseignait avec une autorité qui surpassait celle des érudits de son temps. Il séparait les traditions sans vie des questions de la vie réelle dont parlait la parole de Dieu. Mais les disciples avaient davantage à apprendre. Ils devaient apprendre à soumettre leur volonté et leurs désirs propres à la volonté du Tout-Puissant.
Eh bien, nous allons voir quels principes propres à l'art d'être disciple nous trouvons dans quelques textes du Nouveau Testament, bien sûr, et nous allons lire tout d'abord Matthieu, chapitre 4, les versets 18 et 19.
Au bord de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère. Tous deux jetaient un filet dans la mer. En effet, ils étaient pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes ». Et nous allons prendre maintenant dans l'évangile de Matthieu toujours le chapitre 9 et le verset 9.
En passant plus loin, Jésus vit un homme appelé Matthieu assis au bureau des péages. Il lui dit « Suis-moi, Matthieu ». Et il se leva et le suivit. Nous avons encore un texte dans Marc chapitre 8, verset 34.
Puis il appela la foule avec ses disciples et leur dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive ».
Oui, suivez-le, que la rumeur soit bonne ou mauvaise. suivez-le en liant amitié avec les hommes les plus démunis et les plus mal aimés. Suivez-le en vous oubliant vous-même, en multipliant les actes où vous renoncez à vous-même et vous sacrifiez pour le bien d'autrui.
Ne rendez pas injure pour injure, faites preuve d'amour et de compassion envers la race déchue. Jésus n'a pas considéré que sa vie lui était chère, il l'a offerte pour nous tous. Suivez-le, de l'humble crèche jusqu'à la croix, il est notre exemple. Voici ce que nous dit Ellen White dans Témoignage pour l'Église.
Nous allons lire maintenant comment Pierre a réagi quand de nombreux disciples ont abandonné Jésus. Nous trouvons ce texte dans Jean chapitre 6, les versets 66 à 69.
Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent en arrière et cessèrent d'aller avec lui. Jésus dit donc aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que c'est toi le Christ, le Saint de Dieu. »
Tous les disciples ne sont pas restés avec Jésus. Beaucoup se sont détournés de lui. Pierre a témoigné de la loyauté des disciples de Jésus. Judas excepté, ils ont été fidèles. Ils ont été de fidèles disciples et sont devenus les dirigeants de l'Église primitive, alors même qu'ils avaient éprouvé de profonds moments de doute et de désillusion au moment de l'arrestation et de l'exécution de leur maître. Leur expérience est réconfortante. Un grand nombre d'entre nous ont vu par moments leur détermination à être disciples. Ils ont vu cette détermination s'affaiblir. Avec l'aide de Dieu, nous pouvons surmonter nos manquements occasionnels. Et voilà que cette journée se termine maintenant.
Poursuivons notre thème avec la journée du mardi 2 juin qui a pour titre
« Une vie de sacrifice ».
Certains apprécient de se retrouver avec des gens importants. Rencontrer un président, un ministre ou encore une célébrité fournit un sujet de conversation que beaucoup souhaitent. Connaître une personne importante ou même connaître quelqu'un qui fréquente une personne importante semble nous donner un halo de gloire. Il semble naturel de vouloir grimper l'échelle sociale plutôt que de rester en bas. Les disciples de Jésus, hélas, n'ont pas échappé à ce triste trait de caractère.
Certains disciples de Jésus et leurs proches ont espéré qu'en le suivant, ils amélioreraient leur statut social. Eh bien, nous avons quelques tests qui vont nous donner justement quelle était la réponse de Jésus à ce sujet. Et un premier texte, nous le trouvons dans Matthieu chapitre 20, versets 20 et 21.
Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit « Que veux-tu ? » Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Et nous continuons avec les versets 22 et 23.
Jésus répondit « Vous ne savez ce que vous me demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? Nous le pouvons, disent-ils. » Il leur répondit, « Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela n'est pas à moi de le donner, sinon à ceux pour qui cela est préparé par mon Père. »
Et prenons encore un autre texte dans Ésaïe, chapitre 14, versets 12 et 14, qui nous dit, « Quoi donc ? Tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le dompteur des nations ? Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je siégerai sur la montagne de la rencontre des dieux. Au plus profond du nord, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. »
Jésus n'a pas promis à ses disciples la prospérité matérielle et un statut social. Il les a préparés à une autre sorte de réalité.
Lisons dans Marc chapitre 8 ce que nous apprend ce passage sur le prix à payer pour être disciple Nous allons donc prendre Marc 8 pour commencer les versets 34 et 35.
Puis il appela la foule avec ses disciples et leur dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Quiconque, en effet, voudra sauver sa vie, la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile, la sauvera. » Et nous continuons avec les versets 36 et 37.
« Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme ?»
Dans son fameux livre « Le prix de la grâce » en français, Dietrich Bonhoeffer, jeune théologien allemand, martyrisé par les nazis en 1945, souligne que la grâce n'est pas quelque chose de bon marché, pas plus qu'il n'est facile de suivre Jésus. La souffrance est inévitable. Tout comme le Christ qui a déclaré qu'il fallait qu'il souffre, il en est de même pour nous. Si nous voulons nous identifier à lui dans cette vie, il nous faut le suivre dans la souffrance et la mort. Subir la croix n'est pas une tragédie. La souffrance est le fruit d'une fidélité exclusive envers Jésus-Christ.
Lorsqu'elle survient, ce n'est pas par accident, mais par nécessité. Seul, celui qui se consacre totalement à sa vie de disciple découvre le sens de la croix. La croix est présente dès le début. Il ne lui reste qu'à la ramasser. Il n'a nul besoin d'en chercher une, ni de courir délibérément après la souffrance. Jésus dit que tout chrétien a sa propre croix qui l'attend, une croix que Dieu lui a destinée, une croix choisie par lui.
Voici quelques lignes à méditer. Quelle croix Dieu nous a-t-il donné à porter ? Que nous a coûté le fait de suivre Jésus ? Si notre réponse est « mais rien », peut-être devons-nous examiner de plus près si nous suivons réellement le Seigneur. Eh bien, quelques lignes à méditer, bien entendu. Changer de journée, nous irons au mercredi 3 juin 2009.
Avec comme titre « La récompense du disciple ». Jésus a quitté ses disciples en sachant que le suivre allait requérir d'eux des sacrifices. Il ne leur a rien caché à ce sujet. Examinons à présent ce que leur a promis Jésus comme récompense, immédiate ou à court terme, pour leur fidélité à le suivre. Et pour cela, nous allons prendre quelques textes. Dans Luc, chapitre 9, les versets 57 et 58.
Pendant qu'ils étaient en chemin, quelqu'un lui dit « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Nous avons encore un texte dans l'Évangile de Jean, chapitre 15, versets 18 à 20.
« Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde a de la haine pour vous. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Et ne quittons pas l'évangile de Jean, mais prenons au chapitre 21 les versets 18 et 19.
En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu attachais toi-même ton vêtement et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te l'attachera et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Après avoir ainsi parlé, il lui dit « Suis-moi ».
Les disciples, à part Judas, sont devenus des apôtres. Dès le premier chapitre du livre des Actes, nous voyons que ces hommes avaient appris de nombreuses leçons. Ils avaient accompagné Jésus et maintenant, avec la puissance de l'Esprit, ils affrontaient l'opposition et la persécution.
Sans connaître tous les détails avec certitude, Nous avons de bonnes raisons de croire, selon une tradition fortement ancrée dans l'Église primitive, que plusieurs apôtres sont devenus des martyrs. Il semblerait que tous aient eu une mort violente, excepté Jean, mort en prison à Patmos. Lui aussi a été votre frère et votre compagnon dans l'épreuve, le royaume et la constance en Jésus. C'est ce que nous trouvons dans Apocalypse chapitre 1 et le verset 9.
Et maintenant Bernard, nous allons voir comment le disciple peut surmonter toute souffrance en suivant Jésus. Et je vous invite à lire l'évangile de Jean dans le chapitre 10, le verset 10.
Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance.
Et nous continuons avec l'Épître aux Romains, dans le chapitre 8, les versets 31 et 32 que je vais vous lire. « Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce ?»
Les disciples du Christ auront de nombreux défis à relever. S'ils gardent les yeux fixés sur leur maître, ils surmonteront les épreuves, quelles qu'elles soient. Ils posséderont une chose précieuse entre toutes, sa paix, si différente de la paix imparfaite et éphémère qu'offre le monde. C'est une paix qui surpasse toute pensée, nous dit l'Épître aux Philippiens, chapitre 4 et verset 7. Elle est le signe de cette vie abondante que le Christ donne à ses disciples. Malgré toutes les épreuves et les tentations, c'est une façon de vivre qui apporte une satisfaction profonde qu'il n'est pas possible d'atteindre sans le Christ.
Les fidèles du Christ ont en plus l'assurance de la vie éternelle, l'assurance que malgré leur lutte actuelle, il n'y a pas de commune mesure entre ces dernières et la promesse de la vie éternelle. Savourons dès aujourd'hui l'espérance et le réconfort que nous retirons de ces promesses, et soyons ainsi encouragés à ne jamais abandonner.
Et nous lirons encore une fois le texte de Romains 8 et verset 18. Voici ce qu'il nous dit. « J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Et ainsi s'achève cette journée du mercredi 3 juin. Entreprenons maintenant le jeudi 4 juin 2009, et là il s'agira de...
La souveraineté de Jésus-Christ.
Être disciple implique l'adhésion à un maître, la fidélité à une personne que l'on désire suivre et servir. La qualité de notre relation aux autres se manifeste généralement dans la façon dont nous nous adressons à eux.
Et scrutons toujours les Écritures pour voir quel est l'un des titres donnés au Christ par ses disciples. Et pour cela, prenons l'évangile de Jean, chapitre 20, verset 28.
Jean 20, verset 28, Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et nous avons un autre texte maintenant, qui se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 16, les versets 21 à 23.
« La salutation est de ma main à moi, Paul. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, maranatha. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Mon amour est avec vous tous en Christ Jésus. »
Le Nouveau Testament utilise toute une série de noms pour désigner Jésus. Il est appelé Fils de Dieu, Fils de l'homme, Messie. Des centaines de fois, il est mentionné comme étant le Seigneur. Ce mot, qui était initialement assez vague dans ses applications, a pris une importance extrême pour les premiers chrétiens. L'empereur romain se proclamait divin et voulait qu'on le désigne sous le titre de « Seigneur ».
En confessant que le Christ était leur véritable Seigneur plutôt que César le Romain, les premiers chrétiens n'exprimaient pas seulement leur façon de voir. Il s'agissait vraiment d'une question de vie ou de mort. sous le règne de Rome, on ne devait obéir qu'à un seul Kyrios, c'est-à-dire Seigneur. Appliquer ce titre à une autre personne qu'à l'empereur pouvait avoir pour conséquence la torture et la mort.
C'est pourquoi, pour appeler Jésus Seigneur, il fallait avoir la foi et vouloir s'engager à fond comme disciple. Aujourd'hui, il n'est pas non plus anodin de désigner Jésus, sincèrement, comme étant notre Seigneur. Il est notre souverain, il règne sur notre vie tout entière, sur nos paroles et sur nos actes.
Quel est l'élément clé révélant si nous sommes sincères lorsque nous appelons Jésus Seigneur? Lisons pour cela l'Évangile de Matthieu, chapitre 7, les versets 21 et 23.
Quiconque me dit « Seigneur, Seigneur » n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé des démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ?» Et un autre texte dans l'Évangile de Luc, chapitre 6 et le verset 46.
« Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?»
C'est une chose d'appeler Jésus Seigneur et Dieu, de confesser notre foi, notre amour et notre loyauté envers lui. C'en est une autre de vivre toutes ces choses pleinement. Jésus a été clair. C'est par notre obéissance envers lui et ses commandements que nous manifesterons notre fidélité. Le vrai disciple de Jésus obéit à ses commandements. C'est ce que nous dit Jean chapitre 14 et verset 15.
Imaginons à présent combien notre Église serait différente si tous ceux qui déclarent suivre le Christ se comportaient en véritables disciples. Que pourrions-nous constater ? Nous ne pouvons changer les autres, certes, mais quel changement sommes-nous prêts à faire personnellement afin que notre vie soit pleinement en conformité avec la volonté de Jésus ? Ne voilà-t-il pas une bonne méditation pour cette fin de journée ?
Exactement. Cette étude avec la journée du vendredi 5 juin 2009. Et là, pour aller plus loin, comme à notre habitude, nous vous proposons quelques textes, et principalement aujourd'hui un texte tiré du livre Jésus-Christ d'Ellen White.
Il ne suffisait pas aux disciples d'être instruits concernant la nature du royaume. Il leur fallait un changement du cœur qui les mette en accord avec ses principes. Appelant à lui un petit enfant, Jésus le plaça au milieu d'eux et le pressant tendrement dans ses bras, il dit « Si vous ne changez pas et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » La simplicité, l'oubli de soi-même, l'amour confiant d'un petit enfant, telles sont les vraies qualités que le ciel apprécie. Elles constituent la vraie grandeur.
Et voici maintenant quelques lignes à méditer. Comment nous encourager ensemble avec les nouveaux venus dans notre Église, nous encourager à grandir dans notre fidélité à Jésus. Être disciple signifie davantage qu'une adhésion intellectuelle à un certain nombre de doctrines, à croire que Jésus est mort pour nos péchés.
Nous sommes appelés à devenir disciples de Jésus. Dans notre entourage, nous avons également des modèles. Est-il possible d'être également disciple d'un responsable humain que l'on respecte et que l'on prend pour modèle ? Comment agir ainsi tout en se souvenant de celui à qui nous avons offert notre ultime fidélité?
Et en résumé de cette semaine, voici ce que nous propose l'auteur de ces études. Être disciple du Christ n'est pas quelque chose d'anodin. Cela requiert beaucoup de conviction et de courage, ainsi que le désir de suivre le Seigneur indépendamment de la souffrance impliquée. Être disciple du Christ signifie vivre par la foi et placer sa confiance en Dieu, même dans les circonstances les plus critiques. Cela signifie être prêt à mourir à soi-même et à vivre pour le bien d'autrui et la gloire de Dieu. Et bien voici que cette semaine s'achève. Nous donnons rendez-vous à nos amis.
À la semaine prochaine.
À bientôt.
À bientôt.
C'était votre leçon de l'école du sabbat. Merci et à bientôt. Que Dieu vous bénisse et Jésus revient.
Jesus is Lord.